Bonjour et bienvenue à cette émission de Parole au présent au microphone Claude Julien. Ce matin, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Francine Robert, qui est professeure à l'Institut pastoral des Dominicains à Montréal. Bonjour Francine et bienvenue.
Bonjour, bonjour Claude.
Alors, aujourd'hui, c'est très spécial en fait.
Oui, hein? C'est le dimanche des Rameaux.
C'est ça, et c'est donc l'entrée de Jésus à Jérusalem, et c'est l'entrée des chrétiens, donc dans la Semaine Sainte, qui est une semaine exceptionnelle. Et cette année, comme nous sommes à l'année C, la liturgie proclame l'évangile de la Passion, qui est très long. Alors, disons-le d'entrée de jeu, on ne pourra pas en faire lecture. On va faire une sélection.
Oui, et le parcourir.
Voilà. Pouvez-vous nous aider dans la sélection que vous avez faite, de quelle façon qu'on va parcourir?
On va suivre le récit dans l'ordre où il présente les événements, mais en mettant en évidence ce qui est propre à Luc, parce que souvent, les récits de la Passion sont tous abordés dans le même sens, comme s'ils étaient identiques. Mais en fait, chaque évangéliste met en valeur certains aspects, et finalement, ce n'est pas par caprice. Ce que ça reflète, c'est sa réflexion théologique. Et d'ailleurs, on constate que les différences entre chacun des quatre correspondent aux cohérences de chacun des quatre ailleurs que dans les récits de la Passion. Les mêmes thèmes reviennent. Par exemple, le thème du pardon est important chez Luc. Jésus en croix dans Luc dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Donc, c'est cela qu'on essaiera d'observer.
Autrement dit, chaque évangéliste regarde l'événement à sa manière.
Oui, hein? Sous un angle.
Sous un angle qui lui est propre. Voilà.
C'est ça, et qui est un angle théologique, je le rappelle. Et d'ailleurs, l'évangile par lequel on entre dans cette liturgie, qui est le récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ce qu'on appelle donc l'entrée des Rameaux, on est chez Luc et on voit les disciples qui font la louange de Dieu. Et donc, ça nous indique bien que le récit de la Passion aussi est à lire dans l'esprit de la louange de Dieu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a dans ce récit des merveilles de Dieu? Ce qui n'est pas beaucoup le climat auquel on est habitué pour ce qui concerne la Passion, les merveilles. Je dirais que d'habitude, on a tendance à s'apesantir sur les souffrances de Jésus. Et à ce moment-là, ça se développe habituellement dans deux tendances, ou l'une de ces deux tendances. Soit on réfléchit, on s'apesantit sur les souffrances pour développer leur valeur expiatoire pour nous, soit on s'apesantit sur à quel point on a maltraité Jésus, c'est la méchanceté des humains, et donc c'est le péché de l'humanité contre Dieu. Ces deux tendances-là de lecture qui sont fréquentes, je vais m'en servir pour donner deux clés de lecture que je vais vous proposer pour l'ensemble de la lecture de la Passion chez Luc.
Si je comprends bien les deux, d'une part, vous dites la valeur expiatoire pour nous, ou la dimension rachat,
oui.
Et l'autre clé...
Ces deux tendances de lecture, le péché, l'insistance sur notre péché, nous qui faisons souffrir tellement l'envoyé de Dieu. Ça, c'est quand on insiste sur ces souffrances. Alors, pour ce qui est de la première clé, bon, la tendance à voir la valeur expiatoire des souffrances de Jésus, c'est un thème, vous serez peut-être étonné, mais qui est très peu présent chez Luc. C'est pas un thème qui est parlant pour lui. Il ne dit pas que c'était un thème qui est faux, là, c'est pas ça. Mais son accent à Luc porte plus sur la mort du prophète, qui était un des rails sur lesquels on avait enclenché notre réflexion du carême. On le voit, par exemple, je vais sortir un peu de l'évangile de Luc pour aller dans son second livre, le livre des Actes. On le voit quand Luc utilise le chant du serviteur souffrant que l'Éthiopien est en train de lire. Vous savez, c'est Isaïe 52-53. L'Éthiopien est en train de le lire au moment où Philippe le rejoint, et il lit un passage que j'aimerais que vous nous lisiez.
Qui est repris au chapitre 8 du livre des Actes.
8-32.
Ça se lit comme suit. « Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a pas ouvert la bouche, sa vie a été retranchée de la terre. »
Voilà, ça c'est ce que l'Éthiopien lit dans le livre de Luc. Mais si on avait continué la phrase du récit d'Isaïe qui est en train d'être lu, la suite, sa vie a été retranchée de la terre, il était frappé pour les péchés de mon peuple.
Ce que Luc omet.
Vous voyez, parce que l'aspect expiation, il ne le retient pas. Dans le même cantique, on voit plus loin des choses que Luc ne cite jamais, par exemple, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, ou encore un peu plus loin, il se chargera des fautes des hommes. Alors, on voit que finalement, Luc utilise les chants du serviteur, comme tous les premiers chrétiens l'ont fait, mais il en retient l'aspect du juste souffrant, mais l'aspect expiation, il le laisse de côté. Donc, il présente Jésus qui a poursuivi son chemin depuis le chapitre 9, verset 51, je vous rappelle, où Jésus durcit son visage, ce qui nous vient aussi des chants du serviteur, Isaïe 50. Voilà, son chemin le conduit à Jérusalem, et c'est un chemin plus que géographique, un chemin de conviction. Et la passion pour Luc, c'est l'aboutissement des convictions de Jésus.
Ça, c'est pour la première clé.
Oui.
Et maintenant, la deuxième clé, ça serait l'ampleur de la méchanceté et de la faute des humains.
Oui, sur laquelle nous, on insiste quand on s'apesantit encore sur les souffrances de Jésus dans les récits de la Passion. C'est effrayant comme l'humanité a péché contre Dieu. Ma seconde clé de lecture, donc, c'est ça n'est évidemment pas que Luc atténue la gravité de la faute ou du refus, là, c'est certainement pas ça. Mais son thème privilégié à Luc, c'est le pardon partout dans son évangile, et ça ne cesse pas dans son récit de la Passion. Et donc, son récit révèle la miséricorde de Dieu, la pratique d'accueil des pécheurs que Jésus avait dans sa vie. Elle est mise en œuvre dans les récits de la Passion aussi, avec un regard compatissant, un peu comme le père qui surveillait, qui guettait, qui espérait le retour du fils prodigue, celui de la parabole d'il y a deux semaines. Je dirais même que le récit du larron repenti tient dans les récits de la Passion le rôle du fils prodigue de la parabole. Hein, le larron revient vers Dieu. Et je dirais que ce regard de compassion que Jésus porte et Dieu à travers lui porte sur nous, ça a même affecté Luc, il a intériorisé son propre message, et on verra dans la suite des commentaires que sa manière de présenter les divers personnages, il le fait lui-même avec compassion.
Bien, et là, on va reprendre ces deux clés, on va maintenant les appliquer au texte de Luc en suivant l'ordre du récit.
Oui.
Et on comprendra encore une fois qu'on ne peut pas lire tout le récit. Hein?
C'est vraiment. C'est ça, et ni le commenter, encore moins, qui a plein d'autres aspects magnifiques et enrichissants aussi dans cet évangile qu'on ne pourra pas du tout aborder. Alors, on va simplement suivre le fil du récit, puis je vais signaler ce qui est propre à Luc.
Bon, on commence avec la scène.
Oui. Mmh.
On trouve donc en Luc, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. »
Oui, cette belle phrase par laquelle Luc introduit le repas de la scène, qui nous montre bien « J'ai désiré d'un grand désir manger avec vous. » Jésus reste solidaire de ses disciples dans ce repas. Leur présence le nourrit, on dirait. C'est évident que Jésus puise de quoi donner du sens à sa propre mort, donc à ce qui s'en vient. Il puise ça dans sa relation à Dieu, mais chez Luc, il le puise aussi dans sa relation à nous. Il puise sa force intérieure en Dieu, mais chez Luc, il la puise aussi dans sa relation à nous.
Et moi, je dispose pour vous du règne de Dieu.
Oui.
C'est toujours de Luc.
Oui, mm-hmm. C'est toujours de, qu'il est le seul, d'ailleurs, à introduire le thème du règne de Dieu dans les récits de la Passion. Donc, Jésus annonce ce qui vient au-delà de sa propre mort. Hein. Il ne perd jamais confiance que le règne de Dieu est à l'œuvre et qu'il continue à être à l'œuvre et que les disciples entreront dans cette dynamique. On arrive ensuite à la consécration, ce qu'on appellerait la consécration, qui n'est pas la formule qui nous est familière.
J'en fais lecture. Oui. « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, il fit de même à la fin du repas en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. »
Voilà, vous voyez la répétition « pour vous ». Luc insiste donc, et bien sûr, on n'a pas là pour la multitude, mais pour vous, c'est très relationnel. C'est comme si Jésus disait « Je donne ma vie pour vous », un peu comme dans le langage de Jean, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. « Par fidélité envers vous, et mon désir, c'est d'entrer, dit Jésus, avec vous, dans le royaume de Dieu que je viens de vous annoncer. » Et on n'est pas chez Matthieu, dont la formule a été retenue pour la consécration dans notre liturgie, qui est « Ce c'est le sang de l'Alliance répandu pour la multitude en vue de la rémission des péchés. » Luc, je vous le rappelle, omet le thème de l'expiation. C'est relationnel, c'est pas expiatoire. Et juste ici, dans le repas, Luc place l'annonce de la trahison de Judas. Et là encore, avec une certaine je dirais, compassion pour lui. Luc a précisé avant, il est le seul à le faire, c'est au début du chapitre 22, que Satan entra en Judas. Ce qui montre Judas à la fois responsable et coupable, bien sûr, mais aussi victime d'un mal plus grand que lui. Et Luc ne va pas développer, il va pas s'apesantir sur qui est-ce que ça va être, celui qui met la bouchée, pas du tout. Il passe rapidement sur cette annonce et il omet une phrase très dure de Marc, selon laquelle c'est mieux valu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Pas du tout, c'est simplement « hélas » pour cet homme. Et ensuite, il enchaîne avec un récit des disciples que les autres évangélistes ont ailleurs, c'est Marc 10. Un récit sur les disciples que j'aimerais que vous nous lisiez.
Donc, les disciples commencent à se quereller. Lequel d'entre eux était le plus grand? Mais il leur dit, « Les rois des nations commandent en maître. Ceux qui ont le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus jeune et celui qui commande la place de celui qui sert. Qui est le plus grand? Celui qui est à table? Ou celui qui sert, n'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. »
Alors, quelques remarques. D'abord, c'est Luc qui le place ici, ce qui met en évidence à quel point les disciples sont pas ajustés du tout à ce que Jésus vient d'annoncer, encore moins ajustés à ce qui s'en vient. Alors, ça présente les disciples comme des pécheurs, hein, intéressés à leur propre grandeur, et c'est avec ces disciples-là que Jésus est solidaire. Donc, c'est très fort la jonction. Du « pour vous », c'est pour qui? Pour ceux-là qui se demandent qui est le plus grand. Et ce récit-là qu'on trouve dans Marc se termine, bien sûr, par cette même insistance de Jésus serviteur, qui est un thème important chez Luc. Chez Marc, ça se termine par une phrase familière. « Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » On voit que Luc a encore enlevé l'histoire de la rançon. C'est simplement le Jésus serviteur de ses disciples, de l'humanité comme de Dieu aussi. Pour signaler en passant le réalisme de Luc sur les pouvoirs politiques de type dictatorial, hein, les rois qui commandent en maître, ils dominent, puis en plus, ils voudraient qu'on les appelle nos bienfaiteurs. C'est pas la logique ni de Dieu, ni de Jésus roi, et encore moins celle du règne de Dieu. Jésus enchaîne avec quelque chose de positif sur les disciples. « Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. » Ici, Marc annonce que tous les disciples, enfin Jésus dans Marc annonce que tous les disciples vont l'abandonner. Vous voyez la différence? Jésus leur dit « Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. » Encore là, l'accent donc sur le regard de Jésus qui voit leur solidarité passée, qui n'insiste pas sur leur manque de solidarité qui s'en vient, mais qui signale celle qu'ils ont déjà montrée. Il est lui-même solidaire de ça. Il se contente, au fond, d'une solidarité imparfaite, comme le père de la parabole qui se contentait d'un repentir imparfait chez son fils revenu. Et Jésus enchaîne avec une citation de l'Écriture.
« Je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les pécheurs. »
Alors, ça aussi, c'est propre à Luc. C'est un extrait du même chant du serviteur, Isaïe 53. Et encore là, Luc coupe le texte d'Isaïe, qui enchaînait tout de suite après avec, donc, il a été compté avec les pécheurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Luc a mis cela. La suite du chant est qu'il a intercédé pour les coupables. Cela, Luc va le mettre en scène dans la parole de pardon de Jésus en croix, qui intercédera pour les coupables.
Et maintenant, on regarde Pierre.
Oui. Alors, ailleurs, Marc-Matthieu, on arrive au reniement de Pierre. Ici, Luc insère quelque chose qui est très beau.
« Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne sombre pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. »
Alors, la même chose que pour Judas, la faiblesse des disciples, elle est réelle, elle est signalée. Mais il signale aussi la présence active d'un mal qui vient pas d'eux. Ici, ça s'appelle Satan. Deuxième remarque, Jésus priant, toujours un thème important chez Luc, comme Jésus priait dans la Transfiguration. Et troisième remarque, la confiance de Jésus, hein, au-delà de la mort, au-delà de ma mort, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc, la confiance qu'on peut se relever, même quand on était faible.
Et nous nous acheminons au mont des Oliviers.
Oui, on va passer rapidement.
Très rapidement, en fait.
Les disciples sont endormis de tristesse, précise ouais. Luc. Hein? Ils sont accablés, dépassés par ce qui se passe. Il y a quelque chose de sympathique chez Luc dans cette remarque auprès des disciples. Ce sera l'arrestation, récit plus bref que chez Marc, Matthieu, Jean, avec un ajout significatif. Vous savez, quand le disciple coupe l'oreille d'un serviteur qui fait partie de ceux qui viennent l'arrêter, on a ça dans les quatre évangiles, Luc seul ajoute, et Jésus, touchant l'oreille de l'homme, le guérit. Alors, voyez, la pratique du salut
C'est propre à Luc, ça.
Absolument. Ouais, il y a seulement chez Luc, donc, que cet homme retrouve son oreille. C'est bien, hein, sa passion vécue dans la même logique que toute sa vie, finalement. Et Jésus commente l'arrestation en disant à ceux qui sont venus l'arrêter, « C'est maintenant votre heure. » Et il ajoute, « C'est la domination des ténèbres. » Encore là, comme pour Judas, c'est votre responsabilité, oui, mais c'est celle d'une force du mal plus englobante. Il y a quelque chose dans l'humanité qui résiste à recevoir le salut de Dieu. Il y a plus que vous qui êtes à l'œuvre.
Est-ce que j'en fais lecture?
Non, ça va aller. Le reniement...
Puis après ça, on passe au reniement.
Oui, qui est plus court aussi chez Luc, mais la finale est si belle. Allez-y.
Le Seigneur se retournant, posa son regard sur Pierre... Et Pierre se rappela la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et pleura amèrement.
Oui, alors ce qui est propre à Luc ici, c'est le regard. Le Seigneur posa son regard sur Pierre. On n'est pas justifié d'imaginer là un regard de reproche ou du genre « je te l'avais bien dit hein? ». C'est vraiment un regard d'acceptation de Pierre, comme il est, sans surprise, et avec une confiance pour la suite.
Et nous regardons maintenant le Sanhédrin.
Oui, c'est beaucoup plus bref. Il n'y a pas de débat avec des témoins, il n'y a pas d'accusation de blasphème. Il reste seulement le dialogue sur l'identité de Jésus, révélé Messie et Fils de Dieu. C'est commun avec les autres évangélistes que je ne commenterai pas.
Pilate,
oui.
Déjà?
Oui, oui, on saute directement,
ça va vite, hein?
Mais non. Alors, Pilate va souligner chez Luc trois fois l'innocence de Jésus. Il va dire avant d'envoyer Jésus chez Hérode, ce qui est propre à Luc d'ailleurs, et il va le redire deux fois. Donc, Luc insiste, hein, c'est le thème de Jésus qui est le juste persécuté. C'est toujours donc l'image des chants du serviteur, le juste persécuté et souffrant, mais pas par expiation. Luc, donc, ne s'appesantit pas ici non plus sur les souffrances de Jésus. Ça vous étonnera peut-être, mais il omet complètement ici le couronnement d'épines et une bonne partie des scènes d'outrage. Il n'y a pas de flagellation.
Ah, ça, c'est... J'aimerais même que vous le répétiez, parce que...
Oui, alors, Luc...
Écoutez, l'évangile de Luc, là, dans la liturgie, on le lit une fois tous les trois ans.
On devrait le lire plus souvent, mais...
On devrait. Et je me demande, ceux qui nous écoutent, s'ils savent que Luc ne parle... Il omet, j'ai bien compris, là...
Le couronnement d'épines.
Bon.
Oui.
Et...
Qu'on trouve chez Marc, Matthieu, Jean. Et il réduit beaucoup, beaucoup la scène des outrages, et il n'y a pas de flagellation.
Alors, avis aux intéressés.
Alors,
Hérode.
Ça, c'est propre aussi à lui. Pilate, chez Luc, envoie Jésus chez Hérode, qui ne cherche que du spectaculaire. Là. Il voudrait que Jésus fasse un bon show, si je peux me permettre.
Une
superficialité, là. Aucune ouverture à rien recevoir de signifiant. Donc, Jésus dit rien du tout. Et un certain réalisme encore là sur les pouvoirs politiques. Luc ajoute, ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis alors qu'auparavant, ils étaient ennemis. Hein. Comme quoi, les oppresseurs se font alliance entre eux pour se débarrasser d'un trouble fait qui pourrait susciter l'espoir du peuple. Et fin des procès.
Voilà. Et puis, là, maintenant, on passe à quelque chose qui est propre à Luc.
Oui.
J'en fais lecture. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus.
Oui, voilà. Donc, on est ici au début du ce qu'on appelle le chemin de croix. Ça a fait l'objet, d'ailleurs, d'une des stations de chemin de croix, cette phrase de Luc. Avant, il y a eu Simon de Cyrène qui a pris charge de la croix. Je ne commente pas parce que c'est commun avec les autres évangélistes. Mais le peuple et les femmes qui se frappent la poitrine, c'est propre à Luc. C'est un geste de repentir. Hein. Ça reconnaît l'innocence de Jésus, là encore. Il n'y a pas que Pilate le disant que Jésus est innocent. Il y a ces femmes, l'importance des figures de femmes chez Luc, d'ailleurs, et elles sont en attitude elles-mêmes de compassion avec Jésus et de solidarité avec lui. Et il va leur répondre avec la même attitude, c'est-à-dire, il va exprimer, hélas, hein, pour les femmes qui auront des enfants, quand les malheurs vont s'abattre sur Jérusalem, heureuses les femmes stériles. C'est une manière pour Jésus de compatir avec les malheurs qui attendent les femmes qui ont des enfants. Si on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? J'ai l'impression d'entendre le vigneron qui est malheureux du figuier qui donne pas de fruits, puis qui dit, mon Dieu, si on pouvait faire quelque chose.
Et maintenant, on regarde Jésus en croix.
Jésus crucifié avec deux malfaiteurs. Et Jésus disait,
Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font.
Donc, c'est une phrase clé de l'Évangile de Luc. D'abord, Jésus priant ici encore, et une prière sereine, en tout cas moins troublante que celle qui est retenue chez Marc. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça rappelle aussi le chant d'Isaïe 53, il a intercédé pour les coupables. Donc, on a vraiment là chez Jésus en croix et parlant ainsi, priant ainsi, l'expression la plus claire de la révélation de Dieu en Jésus chez Luc. Hein. C'est sa force de miséricorde. Ils ne savent pas, ça englobe tous les acteurs de la Passion. C'est vrai qu'ils ont fait leur propre choix, Luc ne les excuse pas, je le rappelle, ils sont responsables, mais c'est comme si en même temps ils disaient « on voit pas bien les enjeux réels dans toute cette affaire ». Et le peuple est présenté positivement ici.
Le peuple restait là à regarder. Les chefs ricanaient en disant « ben il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Messie de Dieu, ouais. L'élu ».
Alors, voyez encore le peuple plus neutre. Ce sont les chefs chez Luc qui se moquent et on reprend le titre « L'élu » que j'ai déjà commenté au dimanche de la Transfiguration. Hein. Le serviteur de, c'est encore le titre donné au serviteur de Dieu dans les chants d'Isaïe. Et on arrive ensuite aux deux larrons que Luc développe en un très beau récit qui est aussi lu à la liturgie du dimanche du Christ-Roi. Luc ne parle pas du mauvais larron et du bon larron, c'est nous qui en parlons ainsi. Et ce faisant, nous les jugeons, ce que Jésus ne fait pas et Luc non plus. Alors, le larron, il y en a un qui demande la vie sauve, mais qui demande finalement, dans le même sens que les moqueries hein, adressées à Jésus, tu peux te sauver toi-même, hein, fais appel à ta puissance. Mais en fait, Jésus est solidaire de nous et donc il peut pas échapper à la mort d'une façon magique, je dirais. Il ne peut que se recevoir de Dieu. Et donc, il n'est pas en position de pouvoir se donner quoi que ce soit à lui-même. Il est en position de recevoir. Et là encore, Jésus reçoit quelque chose. C'est la confiance d'un bandit crucifié à côté de lui et qui avoue lui-même qu'il est coupable. Nous avons...
ce que nous méritons.
C'est ça. Ce qui nous arrive, on le mérite. Mais lui n'a rien fait de mal. Encore l'insistance sur le juste souffrant qui est Jésus. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. Et la belle réponse de Jésus, aujourd'hui, je te le déclare, tu seras avec moi dans le paradis. Cette parole de Jésus qui est une parole de salut, aujourd'hui, tu seras avec moi. Le thème du salut chez Luc, c'est le thème de l'aujourd'hui. Tout comme la parole des anges au berger. Hein. Aujourd'hui, un sauveur vous est né. On pourrait dire, aujourd'hui, un sauveur meurt. Et dans les deux cas, ça donne du salut. La dernière parole de Jésus mourant, ce sera, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Ce sont les mots du psaume 31, verset 6, qui sont cités. La prière d'un juste persécuté met confiance, c'est une mort pacifiée, c'est une mort en communion avec Dieu. Mais tout le contexte nous a montré que c'est une mort en communion avec l'humanité. Pas en communion avec Dieu contre l'humanité, mais qui reste solidaire de nous jusqu'au bout. Et le centurion commentera cette mort en disant non pas vraiment il était fils de Dieu, comme dans Marc, mais vraiment cet homme était un juste. Et Luc appelle ça « rendre gloire à Dieu », c'est-à-dire avoir reconnu le visage de Dieu dans cet homme, dans sa façon de vivre, de souffrir et de mourir, sa façon de vivre ça, qui est celle du juste, innocent, mais qui ne juge pas et qui pardonne. Ce à quoi les gens vont réagir, tous les gens qui s'étaient rassemblés s'en retournaient en se frappant la poitrine. Donc, comme si Luc était persuadé que de nous présenter un Dieu qui pardonne, ça peut nous convertir, ça peut nous appeler au repentir, ça peut changer les cœurs. Je pense que je vais arrêter là.
Voilà. Vous venez d'entendre Francine Robert, professeure à l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. À la technique, Nicolas Chouchkine, c'est Claude Julien qui vous parle. Je vous souhaite un bon week-end à notre antenne et vous donne rendez-vous samedi prochain à la même heure.